Dans tout conflit armé, chaque camp essaye de connaître les intentions de ses ennemis. C'est de bonne guerre, évidemment fort utile, puisque chacun sait. Un homme averti en vaut deux. Mais l'information n'est profitable que si on l'utilise pour préparer sa défense, ou mieux encore, lancer une attaque préventive. Jude met longuement ses lecteurs en garde, en leur expliquant que des loups ont pénétré dans les bergeries du Seigneur. Des faux frères, des enseignants de mensonges, se sont introduits dans les assemblées chrétiennes. Cependant, un simple avertissement ne suffit pas, ce que Jude reconnaît bien. Il est nécessaire de concevoir une stratégie qui permet d'identifier les adversaires afin de pouvoir les mettre hors d'état de nuire avant qu'ils ne fassent du grabuge parmi les membres des églises. Comme on dit, il vaut mille fois mieux prévenir que guérir. Les questions qui se posent aux croyants sont donc celles-ci. Comment peuvent-ils, d'une manière très pratique, combattre pour la vérité alors qu'ils sont environnés d'enseignants de mensonges? Aujourd'hui, les masses médias, les organismes officiels scientifiques et les centres d'enseignement de la maternelle à l'université luttent d'un commun accord contre la plupart des vérités des Écritures. Alors, comment démasquer les hérétiques et appliquer les avertissements de Jude à sa propre vie? Que faire et par où commencer? Il faut déjà se tenir pour dit que tant que le diable sera en liberté, il y aura inévitablement des apostats. Sachons donc que tôt ou tard, le croyant va essuyer une attaque. Il doit sans tarder se préparer et s'équiper pour le combat. Dans ce but, dans son épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul donne une liste des armes à porter. Je lis le passage. « Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. C'est pourquoi, endossez l'armure de Dieu, celle qui donne, afin de pouvoir résister aux mauvais jours et de tenir jusqu'au bout, après avoir tout fait ce qui était possible. Tenez donc ferme. Ayez autour de la taille la vérité pour ceinture, et revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Ayez pour chaussures à vos pieds la disponibilité à servir la bonne nouvelle de la paix. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du malin. Prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'esprit. Une fois ainsi armés jusqu'aux dents, les croyants doivent acquérir du discernement de manière à pouvoir faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux, jusqu'à être capable de repérer une aiguille de fausse doctrine dans une meule de vérité. Ils doivent pouvoir distinguer la foi authentique de ses contrefaçons et donc obéir à l'exhortation de Jude, qui est de combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. On ne peut pas exagérer suffisamment l'importance de posséder du discernement. Dans le livre des Proverbes, on lit « Acquiert la vérité, la sagesse, l'instruction et le discernement, et ne t'en dessaisis pas. » Aux membres de l'église de Corinthe, l'apôtre Paul exprime ses inquiétudes à cause, justement, de leur manque de discernement spirituel. Il leur dit « J'ai bien peur que vous laissiez votre esprit se corrompre et se détourner de votre attachement sincère et pur au Christ. Comme Ève s'est laissée séduire par le mensonge, tortueux du serpent. Si quelqu'un vient vous annoncer un autre Jésus que celui que nous avons prêché, vous le supportez fort bien. Vous supportez bien aussi de recevoir un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez accepté. Pendant sa vie terrestre, Jésus a souvent été confronté aux chefs religieux juifs et dû croiser le fer avec eux. Ces derniers ne sont pas des enfants de cœur, car ils ont tous reçu une formation théologique rigoureuse et prêtent la plus grande attention aux écrits de l'Ancien Testament. Pourtant, ils ont autant de discernement qu'une couleur. Un jour, ces religieux viennent voir Jésus pour lui demander de faire un miracle. Mais le Seigneur leur répond, « Au crépuscule, vous dites bien, demain il fera beau, car le ciel est rouge. Ou bien à l'aurore, aujourd'hui, on aura de l'orage, car le ciel est rouge sombre. » Ainsi, vous savez reconnaître ce qu'indique l'aspect du ciel, mais vous êtes incapable de reconnaître les signes de notre temps. Ces gens de notre temps, qui sont mauvais et infidèles à Dieu, réclament un signe miraculeux, un signe. Il ne leur en sera pas accordé d'autre que celui de Jonas. Là-dessus, il les quitta et partit de là. Dans le livre de l'Apocalypse, Jésus adresse la parole à cette église d'Asie Mineure. Celle d'Éphèse n'est pas sans reproche. Cependant, elle a du discernement spirituel et Jésus lui dit « Je connais ta conduite. La peine que tu te prends est ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres et qui ne le sont pas. Et tu as décelé qu'ils mentaient. » Le manque de discernement a plusieurs causes. En premier lieu, la plupart des croyants connaissent mal les Écritures, ce qui fait qu'ils sont une proie facile pour les prédateurs religieux. Heureusement, certains croyants sont très assidus dans l'étude de la parole de Dieu. Lors de son second voyage missionnaire, l'apôtre Paul, accompagné de Silas, se rend dans la ville de Bérée, et dans le livre des Actes, on lit que « Ils y trouvèrent des gens qui accueillirent la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était juste. » Et dans sa seconde lettre à Timothée, Paul écrit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu en homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir de son ouvrage, parce qu'il transmet correctement la parole de vérité. » Une deuxième raison pour laquelle un croyant manque de discernement est qu'il néglige l'importance de la doctrine dans le but de garder l'unité avec d'autres croyants, et ainsi ne pas semer la discorde. Il ne veut vexer personne, croit qu'il faut accommoder tout le monde et que la priorité consiste à donner à tous le sentiment d'être accepté et aimé. Oui, mais un enseignement dilué et donc erroné contribue à des compromis théologiques et moraux, ce qui constitue un système religieux fondé sur l'expérience et qui donc n'est plus le christianisme. En troisième lieu, le croyant est influencé par sa culture et opte spontanément pour la tolérance, comme s'il s'agissait d'une vertu morale. Comme il est mal à l'aise avec l'idée d'une vérité absolue, au lieu de la voir en noir et blanc, il la considère grise. Pourtant, les Écritures font une distinction bien nette entre le bien et le mal, la vérité et l'erreur, la foi qui sauve et les croyances superficielles. Les Écritures établissent un contraste bien marqué entre, par exemple, la porte étroite et la porte spacieuse, la vie éternelle et la condamnation éternelle, le royaume de Dieu et le royaume de Satan, la sagesse de Dieu et celle du monde. Une quatrième cause du manque de discernement du croyant est que les églises ne prennent guère ou pas de mesures disciplinaires envers ceux qui s'éloignent de la vérité ou tombent dans le péché, ce qui permet à la mauvaise herbe de s'établir et de s'étendre jusqu'à occuper tout le terrain. Les commentaires que j'écris ont justement pour but d'aider ceux qu'il les consulte à connaître les Écritures, et ainsi être capable de faire la différence entre le vrai et le faux, d'entrer dans la mêlée spirituelle et de combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Je continue maintenant de lire la lettre de Jude. Mais vous, bien-aimés, rappelez-vous ce que les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ ont prédit. Ils vous disaient, « À la fin des temps viendront des gens qui se moqueront de Dieu, qui vivront dans l'impiété selon les mauvais désirs de leur cœur. » Ces paroles font écho à ce que Jude a déjà dit précédemment concernant les apostats. En l'occurrence, qu'ils sont une menace perpétuelle, car comme la mauvaise herbe, ils se mélangent au bon grain. Et en effet, déjà présents à l'époque de l'Ancien Testament, ils s'infiltrent dans l'Église primitive, ils sont à l'œuvre aujourd'hui, et ils continueront à être un écueil pour l'avancement de l'œuvre de Dieu dans l'avenir. Étant donné qu'ils sont toujours présents au sein du peuple de Dieu, un jour ou l'autre, on doit s'attendre à les rencontrer. Tout comme l'apôtre Pierre, dans sa seconde épître, Jude exhorte ses lecteurs à se souvenir que les apôtres ont annoncé d'avance l'apparition d'enseignants de mensonges. En fait, Jésus est le premier à mettre les disciples en garde contre les apostats. Dans l'Évangile selon Matthieu, on lit « Gardez-vous des faux prophètes lorsqu'ils vous abordent. Ils se donnent l'apparence d'agneaux, mais en réalité ce sont des loups féroces. » Et à la fin de son ministère, le Seigneur dit encore « De nombreux faux prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. » Dans sa seconde épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul parle, lui aussi, des faux apôtres, des ouvriers malhonnêtes déguisés en apôtres du Christ. Et dans sa première lettre, l'apôtre Jean écrit « Attention, mes chers amis, ne vous fiez pas à n'importe quel esprit, mettez les esprits à l'épreuve pour voir s'ils viennent de Dieu. Car bien des prophètes de mensonges se sont répandus à travers le monde. » Quand Jude avertit ses lecteurs en disant « À la fin des temps viendront des gens qui se moqueront de Dieu. » Il répète presque littéralement ce que l'apôtre Pierre dit dans sa première épître. Par ailleurs, le mot grec rendu par moqueur n'apparaît qu'ici et sous la plume de Pierre. Un moqueur n'est pas simplement quelqu'un qui dans son coin porte un sourire narquois. Dans les Écritures, ce mot a une signification beaucoup plus caustique qu'en français, car c'est un mélange de mépris et d'arrogance à l'égard de Dieu. Pour cette raison, dans le psaume 1er, on lit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. » Jude et Pierre font tous deux référence à la fin des temps, une expression technique qui définit la période dans laquelle nous vivons actuellement, c'est-à-dire qui se situe entre la première et la seconde venue de Jésus-Christ. Tandis que Pierre écrit que dans les derniers temps, les moqueurs tourneront en dérision l'idée du retour de Jésus sur terre. Jude leur reproche de vivre dans l'impiété selon les mauvais désirs de leur cœur, ce qu'il a déjà dit trois fois dans cette courte lettre. En d'autres mots, ces gens méprisent les lois morales que Dieu a données à l'humanité, ce qui est très grave car elles sont immuables, sont épaulées dans la loi de Moïse et sont même devenues plus strictes sous la nouvelle alliance que sous l'ancienne. Il est évident que les reproches que Pierre et Jude adressent aux apostats sont parallèles et se rencontrent car ceux qui ne tiennent pas compte des lois divines se moquent aussi de l'espérance des croyants concernant le retour du Christ. En réalité, si les mécréants tournent en ridicule l'idée que Jésus reviendra pour régner, c'est d'abord pour essayer de se convaincre eux-mêmes que cet événement n'aura pas lieu parce qu'ils n'ont aucune envie de rendre des comptes au divin juge pour leurs péchés, ni dans le présent, ni dans l'avenir. Les enseignants de mensonges espèrent pouvoir continuer à vivre, comme bon leur semble, en toute impunité. De toute façon, comme ils ne sont pas régénérés par le Saint-Esprit, ils sont inaptes à mener une vie de sainteté. Ils sont peut-être religieux jusqu'au bout des ongles, mais tel était également le cas des pharisiens au temps de Jésus et des prêtres qui, aux États-Unis et en Irlande par exemple, ont commis les pires actes sexuels sur des enfants. Ces sombres affaires ont d'ailleurs fait à plusieurs reprises le chou gras des journaux, parce que c'était une occasion en or de casser du sucre sur les chrétiens dans leur ensemble, en les mettant tous dans le même sac. Je continue maintenant la lettre de Jude. Rappelez-vous ce que les apôtres ont prédit. À la fin des temps viendront des gens qui se moqueront de Dieu, qui vivront dans l'impiété selon les mauvais désirs de leur cœur. Eh bien, il s'agit de ces gens-là. Ils causent des divisions. Jude continue à décrire les caractéristiques des enseignants de mensonges et ajoute, à une liste déjà très longue, que ces gens provoquent des divisions. En grec, ce verbe signifie « se séparer d'eux », faire une distinction. Littéralement, ils séparent eux-mêmes des autres. C'est donc un choix de leur part. Et leur motivation pour agir ainsi est évidente, même si Jude ne la mentionne pas. Les apostats se considèrent supérieurs aux croyants fidèles à la foi qui a été transmise une fois pour toutes par les apôtres. L'idéal chrétien entre les croyants nous est donné par l'apôtre Paul qui écrit aux Philippiens. Rendez donc ma joie complète. Tendez à vivre en accord les uns avec les autres. Et pour cela, ayez le même amour, une même pensée, et tendez au même but. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même, et que chacun regarde, non ses propres qualités, mais celles des autres. Un dénominateur commun aux apostats de tout poil est leur conduite qui est exactement l'inverse de celle préconisée par Paul. Ils s'infiltrent dans une assemblée et la détruisent de l'intérieur en la divisant. À l'origine, quand elles furent fondées, les églises réformées de France sont toutes en accord avec les grandes thèses de la réforme, à savoir que les Écritures sont la parole de Dieu du commencement à la fin. Elles ont pour but de faire connaître les exigences de Dieu à l'homme pécheur, à le conduire au salut et à amener une vie sainte. Jésus est mort et ressuscité, et lui seul a le pouvoir de donner la vie éternelle à ceux qui, par la foi, se tournent vers lui et l'acceptent comme leur sauveur. Mais aujourd'hui, seul la branche évangélique constituée d'une petite partie de ces églises réformées adhère à la confession de foi que je viens de mentionner. Que s'est-il passé? Eh bien, des apostats d'obédience théologique libérale sont arrivés et ont commencé à enseigner des idées humanistes, comme par exemple, l'homme n'est pas fondamentalement dépravé. Il suffit d'être sincère et de vivre en accord avec sa conscience pour être sauvé. Et il faut trier les Écritures, car elles ne sont pas toutes fiables. Ce sont ces enseignants de mensonges qui exaltent leur personne et leur propre intérêt, qui sont responsables des divisions qui existent aujourd'hui dans les Églises réformées. Le même phénomène s'est produit dans de nombreuses familles d'Églises. Aujourd'hui en Allemagne, la confession de foi des Églises luthériennes consiste à faire du social, du bien dans son entourage, ce qui en soi n'est pas mal du tout, mais leur position théologique n'a plus rien de commun avec la foi de Martin Luther. En Grande-Bretagne et aux États-Unis, la situation est la même. Toutes les grandes familles d'églises, qu'elles soient baptistes, presbytériennes, méthodistes, pour ne citer que les plus connues, ont été divisées, sinon détruites par des hommes d'obédience théologique libérale. Aujourd'hui, Des assemblées sont même dirigées par des homosexuels ou des lesbiennes qui prêchent leur style de vie particulier. Les mises en garde des auteurs sacrés sont quelque peu barbantes parce qu'ils répètent souvent les mêmes avertissements. Sous l'ancienne alliance, la plupart des prophètes de l'Éternel ont dû se débattre et combattre les faux prophètes pendant toute la durée de leur ministère. Jésus est trahi par l'un de ses apôtres, puis par les dirigeants de son propre peuple qui le livrent aux Romains sous de faux prétextes pour être crucifié. Après lui, les écrivains du Nouveau Testament ont tous, semble-t-il, maille à partir avec des apostats de tout poil. À cause d'eux, la chrétienté d'aujourd'hui est tellement fragmentée que seule une intervention surnaturelle de Dieu permet à un être humain en recherche de trouver la vérité.